Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente nos invités du jour. Pierre Forest, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Savignac, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thierry Cornaille, bonsoir. Bonsoir. On va parler, vous l'aurez compris, avec ce plateau essentiellement de rugby ce soir, parce qu'il y avait un beau week-end de rugby. On va attaquer directement, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Défaite de l'équipe de France pour son premier test match de la tournée d'automne des équipes de l'hémisphère sud. Défaite face à l'Afrique du Sud, l'équipe championne du monde en titre, 32-17. Je vous entendais discuter tous les trois avant cette émission sur ce plateau. Défaite logique, Pierre Forest, il n'y a rien à dire ?
Oui, bien sûr. On attendait après ce match-là, et même si personne ne l'a avoué, c'était quand même une revanche de la dernière Coupe du Monde. Hein. On s'en souvient que l'équipe de France avait été éliminée d'un point hein, contre cette équipe sud-africaine, et on attendait un petit peu que l'équipe de France puisse proposer un rugby qui soit gagnant. Ça a été le cas. Ça a été le cas sur, je crois, 60 minutes à peu près, avec des faits marquants au cours de cette première mi-temps et des 15 minutes qui ont découlé. C'est d'abord qu'on peut marquer des essais en jouant comme on sait le faire, c'est-à-dire en écartant les ballons de leur point fort, hein, c'est-à-dire l'impact physique n'est plus à démontrer des Sud-Africains sur le jeu d'avant. De lumière, on va dire ça comme ça, de Ramos. Hein, je crois que c'est le seul qui a un peu surnagé au cours de cette partie, avec deux essais de Penaud. Et puis cette expulsion juste avant la mi-temps qui nous laissait penser que, évidemment, la deuxième mi-temps serait plus facile.
Oui, eh ben non.
Oh, ben non, ça n'a pas été le cas. Et c'est là qu'on a vu qu'une équipe sud-africaine, évidemment championne du monde, hein, double championne du monde et quatre fois déjà championne du monde, alors qu'ils ont commencé la Coupe du Monde en 95, me semble-t-il, ils ont raté les deux premières éditions, mais qui a mûri et qui tactiquement a vraiment fait forte impression au niveau tactique, de ne pas tenter les pénalités, on en parlait, et plutôt de trouver des touches à 5 mètres, qui s'est conclu par un essai. Donc, Voilà un peu la différence. Et puis, évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Hein. Galtier a retrouvé ses joueurs qui sont dans les clubs. Il a eu 5 jours pour préparer. Les autres, ils venaient du championship. Ça fait 1 mois et demi qu'ils sont ensemble, etc. Bon, OK, d'accord. Mais sur le vu du match, on est un peu... Enfin, en tous les cas, moi, pour ma part, j'étais frustré puisque je m'attendais à autre chose, surtout en deuxième mi-temps de la part des Français.
Éric Savignac, frustration aussi pour vous ?
Oui, mais en fait, on ne retient pas les leçons. C'est-à-dire que là, 63e ou 64e minute, l'interception de Bielbarré qui amène ensuite un essai... pour la Coupe du Monde, c'était la même chose. Je crois que c'est la 66e minute qu'Etsevest marque. Donc, il faudrait, pour gagner, peut-être la solution, c'est d'arrêter les matchs au bout d'une heure. à l'époque, Pierre, ça te souvient.
Il y avait des tactiques à l'époque.
Il y avait des tactiques, ça s'appelait une générale. On avait 2 ou 3 intelligents qui mettaient fin au match. Et puis voilà. Mais non.
C'était dans les règlements généraux.
Hein. C'était dans les règlements. Mais là, non, voilà, on n'a pas retenu la leçon. Comme le disait Pierre, effectivement, c'est une équipe qui a brillé au championship, qui n'est pas retournée forcément dans les championnats et qui a vraiment préparé cette tournée d'automne. Pour les Français, des changements inexplicables de la part de Fabien Galtier, avec des joueurs qui se sentaient bien, et puis on fait place à certains jeunes qui découvrent à la fois le Stade de France et puis la meilleure équipe du monde.
Mais Fabien Galtier disait, dans ses réactions d'après-match, que l'équipe de France avait rencontré sans doute la meilleure équipe d'Afrique du Sud et sans doute la meilleure équipe du monde qui ait jamais eu, pratiquement, si on le suit un peu.
Oui, effectivement, et même sur leur turnover. En plus, ils se sont étoffés à l'arrière avec Sacha, qui est vraiment extraordinaire. Mais on voit, par exemple, leur talonneur, Malcolm Marx, qui fait tout le match, ou Dutoy, qui fait tout le match. Et qui s'engage de manière incroyable, et qui font pratiquement tout le match. Une grosse partie du match à 14.
Thierry Cornaille, ce match, comment vous l'avez...
Une gifle monumentale. Ah. Ah, quelle désillusion. Attends, on avait espéré en effet à la mi-temps, puisqu'on menait, on jouait chez nous, on jouait à 15 contre 14, enfin bref. Après, c'est vrai que c'est le match a basculé à 60e minute, mais en première mi-temps, on sentait déjà quand même quelques petits signes quand même de la main mise par les Sud-Africains, hein, notamment dans la conquête. On oublie toujours que le rugby commence devant la conquête, les mêlées. On a été vraiment dominé très largement, y compris en première mi-temps. Dans les touches également, on a été dominé. On a été dominé sous les chandelles, on a été dominé dans les rucks. Donc vraiment, le rugby sport de combat, c'est là que ça commence et on a un petit peu oublié ça. Après, meilleure équipe du monde, je rappelle que les Français, ils perdent toujours contre l'Afrique du Sud. Hein. Je crois qu'on a gagné un match au cours des 15 ou 20 dernières années contre l'Afrique du Sud. Donc, il n'y a rien de surprenant finalement. Hein. C'est la suite logique. Hein. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut revoir un petit peu aussi les priorités du rugby. Hein. En effet, et Pierre l'a dit, il y a une priorité au club en Europe. Voilà, à la différence des nations du Sud qui donnent priorité à l'équipe nationale. Tant que ça sera comme ça, on sera toujours derrière, on sera toujours que la quatrième ou cinquième équipe du monde, hein, telle qu'on l'est, ce qui est déjà bien. Mmh. Mais en tout cas, on n'est pas invité à être sur le podium de la Coupe du Monde en 2027 avec des matchs comme ça.
Mmh. Pierre Forest.
D'autant que si on regarde individuellement un petit peu, hein, quand on regarde par rapport à ce que dit Thierry sur la force des Sud-Africains devant, on savait que la force principale, c'est l'impact physique, mais surtout, ils ont un jeu de... Ils broient l'adversaire, hein. Ils concassent, hein. Le mot a été sorti.
Oui, mais ça fait 70 ans qu'ils broient leurs adversaires,
mais,
les Sud-Africains.
Mais en face de ça, on a mis des jeunes, je regarde les deux piliers, hein, Montagne et Erdicho, c'était un peu léger vis-à-vis des Sud-Africains. Et puis n'en parlons pas. C'est pas possible. Donc il y a eu deux grosses erreurs et qui a amené deux essais notamment. Donc peut-être qu'en troisième ligne, on a peut-être eu trois troisième lignes qui avaient le même format, le même style de jeu. Il y a eu ce demi de mêlée champion du monde, hein, qui a percé. Évidemment, il n'y avait pas de plaqueur troisième ligne et puis qui a amené cet essai-là. Et puis l'essai de demi de mêlée en deuxième mi-temps qui a clôturé le débat. Donc il y a quand même eu. C'est vrai, il y a quand même eu, il faut le dire, il y a quand même eu des défaillances dans le choix de l'équipe. Il y a pas rien, on est là pour aussi en discuter, dans le choix, dans les etc. Même s'il y a beaucoup de circonstances, hein, on l'a dit, hein, il y a des blessés, Dupont il n'est pas là, mais bon, ok, d'accord, mais la charnière inexistante, complètement inexistante. Donc il y a de quoi se poser des questions, ou alors c'est de dire, bah, on profite de ces matchs-là. Allez, on va se prendre des roustes, mais on essaie de... Mais ça fait un discours qu'on entend déjà depuis quelque temps. On dit on prépare la prochaine Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'on prépare la Coupe du Monde, on n'a toujours pas été jusqu'au bout. Voilà, c'est juste...
Thierry Cornaille ?
Non, mais on a été battu individuellement, on a été battu collectivement. Parce qu'on dit, les Sud-Africains nous ont concassés, mais enfin, ils marquent deux essais ou trois essais sur des fins de passe. Ce n'est pas du tout... Donc, c'est que vraiment, on a été battu dans tous les domaines. Et vraiment, très honnêtement, si on devait faire une équipe mondiale, il n'y aurait aucun Français dans le 15 mondial, ni dans l'équipe numéro 2 mondiale, faut le reconnaître. Donc on n'a pas individuellement les joueurs à niveau pour rivaliser avec les Sud-Africains ou les Néo-Zélandais aujourd'hui, quoi. Après, les Sud-Africains, ça reste les Sud-Africains. On voit, ils aiment mettre des petits coups en permanence. On l'a vu sur l'essai de Penaud, où le Sud-Africain était largement battu, mais il vient quand même mettre un petit coup, quand Penaud avait marqué. Donc tout ça, des fautes qui seront non sanctionnées d'ailleurs. Tout ça, c'est des petits qui, à la fin, finissent par user l'adversaire. On sait que rugby, c'est aussi un jeu d'usure, et que finalement, c'est pas surprenant que les Français aient craqué à partir de la 60e minute, même si on a joué pendant 30 minutes quand même, à 15 contre 14.
Mmh. Je vous sens tous les trois un peu plus colère que d'habitude contre Galtier. Eric, vous soulignez ces changements un peu approximatifs à votre goût, l'entrée de jeunes joueurs. Je vous sens tous les trois un peu en colère quand même.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne prend pas le match par le bon bout. On a du défi physique en face et on met des jeunes un peu frêle. Bon, pour la charnière, c'est difficile. Hein. On a deux excellents joueurs, mais quand il y a un pack qui recule, c'est très très difficile. Après, il faut quand même avoir la lucidité de jouer. Quand Romain Tamac prend 5-6 fois des grosses secondes ou troisième ligne sur le rable, c'est pas évident de jouer derrière. Donc Ramos est sorti un petit peu du lot. même si je trouve que dans des deux, troisième temps, il y a toujours ce petit coup de pied au-dessus qui est rendu, avec pas mal de marques de l'autre côté. Ils ont été dépassés dans la défense. Et les choix de Galtier pour affronter ce type d'équipe n'est pas forcément bon. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait changer de coach en fonction de l'équipe qu'on affronte. Si on avait mis un Urios à ce moment-là, sélectionneur, peut-être qu'il aurait mis du lourd.
Ouais.
Parce que, face à ce genre de joueurs. Maintenant, il ne faut pas les cataloguer. L'Afrique du Sud, il ne faut pas les cataloguer comme des joueurs. Ils sont rudes, certes, mais maintenant, derrière, ça galope.
Oui. Et ça, on le dit depuis plusieurs semaines sur
Colby,
ce plateau.
Colby, c'est pas un gaillard. Ouais. Et pourtant, sur les ballons hauts, il va les chercher, il les attrape. Et il fait 1m70. Donc, voilà, il n'y a pas que du... Il y a du gros qui fatigue, mais derrière, ça galope.
Ouais. Pierre ?
Sur les deux postes de pilier, j'ai revu une deuxième fois le match, je me suis fait un peu...
vous aimez vous faire mal, vous, oui.
Hier soir, j'ai regardé de nouveau, c'est vrai qu'en pilier, c'est vrai qu'il baille, pilier gauche est absent, et Antonio, mais ils seront encore là à la Coupe du Monde. Quand on voit les deux jeunes piliers, les fautes qu'on fait, et puis on est parti sur un 4-2, sur le banc des remplaçants 4 avant, Aldighieri et grosse, je crois.
Gros.
C'est pénalité sur pénalité. Donc, il y a vraiment, c'est flagrant à ce niveau-là d'être pénalisé sans arrêt. Il y a quand même du boulot à se faire. Là.
Thierry Corneille, il va falloir se remettre à la tête à l'envers avec les Fidji la semaine prochaine. Est-ce que ce match, finalement, il peut faire du bien
Les Fidji, c'est la 10e ou 12e équipe mondiale, donc c'est pas du tout le même niveau que les Néo-Zélandais ou l'Afrique du Sud, même s'ils ont une bonne équipe, même s'ils ont résisté. Mais ça serait grave si on devait perdre encore contre les Fidji ou contre l'Australie. Je rappelle d'ailleurs qu'on joue notre place de tête de série pour la prochaine Coupe du Monde. Hein. Ouais. Si on n'est pas dans les 6 premiers, ça peut être dramatique.
Il faut sortir dans les 6 premiers parce qu'il y aura 6 poules de 4.
Après, je voudrais revenir un peu sur le Galtier. Oui, je pense que Galtier a fait des erreurs, notamment. Alors, bien sûr, il a les joueurs qu'il a à sa disposition, hein, mais je trouve que son coaching dès la 47e minute, donc très tôt, est quand même assez contestable. Alors qu'on menait, nous étions 15 contre 14. J'ai pas très bien compris pourquoi il avait fait ces changements aussitôt dans la partie. Et puis moi je suis un peu agacé toujours d'entendre à la fin des matchs les défaites encourageantes. Enfin bref, on prend une raclée, on prend une gifle monumentale, mais on est quand même content. Quoi. Donc non, sincèrement, on peut pas être content quand on a pris une raclée comme ça. Je rappelle que les Sud-Africains auraient pu marquer 10 points de plus par des coups de pied, qu'ils ont pris des tas de pénales touches au lieu de tenter les pénalités. Enfin bref, ils auraient pu en mettre 40 ou 50. Hein. Donc c'est vraiment une grosse claque. Et sur le choix des joueurs, moi je suis surpris, je le dis ici, mais Pierre parle des jeunes piliers. Je ne comprends pas pourquoi Nethi n'est pas sélectionné. Quoi. Je ne comprends pas. Voilà, un pilier qui est titulaire, il était dans les 42, mais il n'est pas sur la feuille de match. Voilà, il est titulaire à Toulouse, qui est quand même la meilleure équipe de France et peut-être d'Europe. C'est quand même un peu surprenant, il a un peu plus d'expérience, etc. Moi, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Voilà, ces choix de mettre des piliers qui ont deux sélections contre des Sud-Africains, alors, vraiment, il faut quand même oser. Quoi. Voilà.
Pierre ?
Ouais. Mais on parle beaucoup de l'équipe de France et ses faiblesses et ses manques, mais je pense qu'il faut aussi saluer cette équipe sud-africaine. Qui, on l'a vu sur le Championship, ils ont concassé la Nouvelle-Zélande. Qui d'autre que les Blacks ? Et en Europe, peut-être les Français, l'Irlande, ils ont prouvé leurs limites, et même l'Angleterre. Mais 50, hein, je crois, le deuxième test était 50 à 14 en Nouvelle-Zélande sur le Championship. Donc, qui va les arrêter ?
Pierre, excuse-moi, mais ils ont été battus récemment au Championship et par l'Australie et par l'Argentine.
Oui, oui.
Ils ont quand même perdu contre l'Australie et l'Argentine. Ouais. Nous, ce qu'on n'a pas été capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire depuis 20 ans.
Ils n'ont jamais perdu contre les Français, c'est ce que je voulais te dire.
Éric Savignac, il va falloir se remettre la tête à l'endroit là, pour Fidji. Ce match, oui. il va avoir quelle valeur ce match contre Fidji, Éric, et après Pierre.
Là, je pense qu'il est en train de faire une revue d'effectifs. Aldrit va certainement revenir, certainement Nethi, parce que moi j'ai trouvé Aldighieri, par exemple, qui est aussi au stade un peu à bout de souffle. Enfin, il est asthmatique, hein, mais bon, voilà, il a eu quand même un peu de mal. Il va y avoir une revue d'effectifs avec des joueurs qui vont tourner devant. Voilà, maintenant. Il faut le gagner. Mmh. Là, pour lui, il vaudrait mieux qu'il gagne. Sinon, le pauvre Galtier, je crois qu'il ne verra pas la Coupe du Monde.
Ouais. Pierre ?
Il faut se remettre à l'endroit, je pense, contre les Fidjiens et puis contre les Australiens après. Mais je crois que Galtier s'est un peu trompé. Il était parti sur l'élan de cette tournée en Nouvelle-Zélande, rappelez-vous, avec des jeunes, Guillard, les deux piliers, etc. Et pensait pouvoir continuer. Or, c'est un échec. Donc il y a eu cette histoire avant le match, Aldrit, pas Aldrit, voilà, donc je pense qu'il faut se remettre à l'endroit, les fondamentaux, Aldrit aurait très bien pu jouer contre le Sud-Af, parce qu'il a le gabarit, il a le coffre, il a quand même cinquantaine de sélections en équipe de France, d'accord, mais voilà, donc il y a eu cette mauvaise ambiance, là il faut se recadrer tout le monde, et faire recadrer tout le monde, et puis aller dans un objectif fidjien, Thierry l'a dit, ce n'est que l'équipe des Fidji, mais les Fidjiens ils jouent tous en métropole, comme maintenant les Italiens, j'ai appris qu'ils avaient battu les Australiens.
On va en parler.
On va les retrouver sur les tournois destination, donc le niveau progresse, mais nous on est toujours un peu entre deux eaux, là, on ne sait pas trop si on a... Voilà. La seule lettre vous manque et tout est dépeuplé, quelqu'un l'a dit.
Ah oui, exactement, c'est Pierre Forest qui l'a dit. On va parler justement des autres résultats des équipes de l'hémisphère sud, avec une victoire de la Nouvelle-Zélande 25-17 face à l'Écosse, c'était à Murrayfield. On peut dire que c'est logique, Éric Savignac ?
L'Écosse s'est bien défendu, voilà. Maintenant, ils ont pas le même profondeur de banc et les mêmes joueurs que par exemple l'équipe de France.
Ouais.
Mais voilà, ils s'en sont bien sortis. Bon, voilà, c'est quand même une défaite, mais les All Blacks continuent à progresser. Puis là, ils vont monter un peu en puissance sur les prochains matchs.
Défaite encourageante, ça doit. Thierry Cormeil de l'Écosse.
L'Écosse, maintenant, depuis 2 ou 3 ans, je crois, est bien revenu quand même dans le concert mondial. Ils étaient vraiment au creux de la vague, y compris en Europe. Là, quand même, ils deviennent une équipe dangereuse, qui perd pas très largement contre la Nouvelle-Zélande. Donc, je pense qu'ils seront là pour le tournoi destination. Et l'équipe de France va avoir beaucoup de mal entre l'Irlande, l'Angleterre, l'Italie maintenant. Et je pense que j'ai hâte maintenant de voir ce tournoi destination.
Pierre, sur la victoire de la Nouvelle-Zélande en Écosse.
J'ai trouvé honorable, une défaite honorable, même si le mot ne convient pas à Thierry, mais honorable pour les Écossais, quand on sait que l'Écosse est un tout petit pays, a très peu de licenciés, je crois. Si en métropole, on a un peu plus de 300 000 licenciés, en rugby, je crois qu'on met en Écosse, il y a 70 000 ou 80 000. Donc c'est vraiment très honorable. Ils ont sorti des très bons joueurs. D'ailleurs, il y en a un qui joue au Stade Toulousain, à l'arrière. Voilà, donc... C'est plutôt honorable, pour une défaite honorable, comme on dit.
Et puis, il y a ce résultat, vous l'évoquiez il y a un instant, Pierre Forest, c'est cette victoire de l'Italie, 26-19, face à l'Australie. Alors, c'est vrai que c'est un peu passé inaperçu dans ce week-end, et pourtant, c'est quand même énorme. C'est la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe d'Italie que les Italiens battent l'Australie. Éric ? Et après Pierre.
Oui, on a, comme disait Pierre, l'Italie monte en puissance avec de nombreux joueurs qui évoluent dans le top 14. Donc forcément, à un moment donné, ça tire vers le haut et on a une équipe. Alors bon, l'Australie, là, en déplacement hors de ses bases, c'est pas folichon. On va voir un petit peu. On pourra mesurer le niveau et comparer. Comparaison n'est pas raison, mais on pourra éventuellement voir un petit peu ce que font les Français contre l'Australie.
Voilà. Pierre ?
Ouais, l'Italie fait partie de ces petites équipes, entre guillemets, c'est-à-dire que les équipes de l'hémisphère sud aiment bien rencontrer, que ce soit le Japon, l'Italie, etc.
C'est des sparring partners ?
Pour se roder un petit peu. et puis l'Italie est spécialiste quand même, parce qu'à chaque fois, tout le monde ne s'y attend pas, et puis l'Italie, boum, sur un match, ils peuvent faire la différence. Bon, c'est pas un jeu déployé comme on le voit, etc., mais ils ont des bons buteurs, et la plupart, comme le dit Eric, ils jouent en top 14, donc le niveau aussi a progressé. Ils ont une très belle équipe des jeunes de moins de 20 ans, ils ont disputé la Coupe du Monde tous les ans maintenant avec des résultats probants, etc. Donc c'est une nation qui est en train de se développer, qui va atteindre des bons niveaux. Donc attention à l'Italie sur le tournoi, c'est vrai que... Mais comme la plupart jouent en top 14, méfiance.
Thierry ?
L'Italie progresse régulièrement, hein, donc c'est vrai que maintenant ce qu'on attend d'eux, c'est un peu plus de régularité dans un tournoi, mais ils sont capables de gagner sur un match... Ils ont battu quelques fois l'équipe de France. On voit aussi leur club qui commence à rivaliser également en Coupe d'Europe. Beaucoup de joueurs jouent en Angleterre ou en France. Là, par exemple, ils viennent de lancer un jeune de 19 ans hein, qui joue en Angleterre, d'origine ghanéenne, hein, qui fait, je crois, 2 mètres et 150 kilos. Donc,
un beau bébé.
Et donc, qui va certainement compter dans les années qui viennent. Mais j'espère que l'Italie va devenir beaucoup plus régulière et va pouvoir rivaliser en tournoi de 6 nations pour que ça soit un peu plus intéressant.
Un tout dernier mot de rugby, parce qu'au-delà des matchs internationaux, il y avait un match en retard, la troisième journée du top 14 ce week-end. Toulon-La Rochelle, ça avait été reporté pour cause d'un orage monumental qui avait inondé la pelouse de Mayol. Et Toulon, qui s'est imposé 39-14. Les Toulonnais qui sont à égalité de points en tête du top 14 avec le stade toulousain, c'est un peu une surprise, Eric Savignac, ou pas franchement, non, au vu de ce début de saison.
Au vu de l'effectif qu'ils ont et des anciens, même si Mao Nounou, bon, il a encore pris un carton jaune. Hein. Mais franchement, ils ont une équipe et ils ont une équipe, une profondeur de banc. Ils ont Olivon qui revient. Ils ont Jaminet qui a fait un super match.
Ils ont le vétéran Manonou.
Jaminet, bon, est-ce qu'on le reverra en équipe de France malgré ses petites bêtises? Il y en a d'autres qu'on revoit et lui il revient pas. Pourtant il frappe, je crois qu'il frappe à la porte. Non, ils ont fait un match sérieux, même si O'Gara à un moment donné avait lâché que peut-être qu'il déclarerait forfait. Mais non, c'est vraiment, Toulon est une belle équipe et elle mérite sa place.
Pierre ?
Non, ce n'est pas une surprise. Hein, quand on regarde le résultat des Toulonnais ces dernières saisons, hein, ils sont toujours dans le dernier carré. Et puis sur le match en retard, c'était l'un ou l'autre. Hein, même si La Rochelle l'avait gagné, ils étaient aussi remontés à la...
Oui, c'est ça, parce que La Rochelle, ils ont 4 points de retard sur,
donc,
sur les leaders.
Ils étaient ensemble sur le top. Donc c'est un championnat qui va beaucoup évoluer d'ici la fin de saison. Quoi.
Un petit mot sur ce match,
Toulon sera au rendez-vous hein, des phases finales. Ça, je crois que c'est pratiquement une certitude.
Hein. Par contre, là aussi, dans le management, peu importe, hein, ça dépend du contrat entre les clubs pro et la Ligue professionnelle. Des deux joueurs qui n'ont pas été pris en équipe de France, Olivon a pu rejoindre Toulon pour jouer ce match contre La Rochelle. Ouais. Et par contre, Aldrit n'a pas été autorisé à revenir à son club, mais par contre a été autorisé à s'asseoir en tribune. C'est un peu, je comprends Aldrit, il a perdu tout le week-end sur les deux trucs, et l'équipe de France et son équipe battue à Toulon. Voilà. Donc c'est aussi là, il faut faire attention, c'est ce genre de management qui n'est pas très bon.
Un dernier mot avant de marquer une page de pub sur le rugby. Si vous êtes abonné à Canal+, je vous conseille le documentaire qui concerne Thomas Ramos, qui est un très très joli documentaire. Et c'est un garçon assez étonnant.
Point par point,
exactement. Et c'est un très beau documentaire que je vous conseille si vous êtes abonné à Canal. On marque une page de publicité. On revient dans un instant pour la deuxième mi-temps. On parlera de football, de Formule 1, de rallye, enfin de plein de choses. Quoi. À tout de suite.
RRB, la pub.
Et si ton paquet de chips se transformait en billet d'avion ?
Attends, quoi ? Juste avec des chips ?
Pas tout à fait. Crée ton compte sur destinationchips.nc puis scanne les QR codes dans les magasins participants.
Donc plus je scanne et plus j'ai des chances de gagner.
Exactement. Alors fais le tour, scanne un max et prépare ta valise. Tu as jusqu'au 30 novembre pour jouer.
Gagner un voyage pour deux à Sydney juste en scannant un max de QR codes ? Mais c'est fin valable !
Jeu sans obligation d'achat du 27 octobre au 30 novembre. Plus d'informations sur le Facebook Arnott Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne ? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille...
Leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059. RRB, 16h-19h, le tout info.
17h31, la suite de votre semaine formidable, présentée cette semaine par...
Lionel
Sabot,
il s'appelle.
Lionel Sabot, merci.
Exactement,
Lionel.
Oui, c'est moi, Lionel Sabot, effectivement.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Merci Maurice. On va reparler, on va reprendre cette émission avec du football. On parlera Ligue 1, Ligue des Champions et Coupes européennes dans un instant. Mais j'aimerais qu'on parle de l'actualité de cette nuit avec les jeunes Calédoniens, les U17 qui étaient Coupe du Monde au Qatar. Défaite historique, 16-0 ce matin face au Maroc. Pierre Forest, qu'est-ce qu'on peut dire de cette défaite, au-delà que c'est une défaite ?
Merci de la passe. Oui, bah, comme tout le monde, hein, on a été réveillé avec ce score-là, qui évidemment ne plaide pas en la faveur du football calédonien en général, hein, et de la Nouvelle-Calédonie en particulier, Mais au-delà de dire quoi que ce soit et au-delà de critiquer, je crois qu'on n'est pas là pour le faire et on n'a pas besoin de ça en ce moment. C'est peut-être se dire que l'histoire du football calédonien a intégré la FIFA, l'OFC, depuis 2000. Donc ça fait 25 ans que le football calédonien joue. Et depuis le retrait de l'Australie, qui a intégré la zone Asie, a beaucoup plus de chances de se qualifier à chaque fois avec la Nouvelle-Zélande, hein, que ce soit les U17, les U20, les filles, les filles également, et les seniors. Je crois que c'est le bon moment. Hein, je n'ai pas de conseils, encore une fois, je n'ai pas de conseils à donner, ni quoi que ce soit. Mais c'est simplement une réflexion. C'est peut-être le moment de se dire comment on construit l'accès au niveau. C'est quoi l'accès au niveau ici en Nouvelle-Calédonie et c'est quoi le haut niveau qu'on n'a pas forcément ici en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir changer d'objectif. L'objectif jusqu'à maintenant, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais il ne faut pas que cet objectif-là reste le point final. Il faut maintenant se dire, oui, objectif 1, on se qualifie, mais l'objectif 2, c'est de se projeter pour... C'est pas débile, non, garçon. C'est pas ils sont tous pareils comme les uns les autres. C'est simplement la formation. Mmh. Qu'est-ce qu'on leur propose comme formation ici, localement, et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir progresser, qu'on leur propose comme autre formation ailleurs. Voilà. Donc, c'est plutôt de la réflexion, c'est plutôt de dire, allez, on vous encourage, les dirigeants, mais j'aime pas taper sur les dirigeants, les bénévoles, ils savent déjà bien ce qu'ils font, mais on a des techniciens, et notamment à la Fédération Canadienne de Football, il y a des techniciens, qu'est-ce qu'on construit ? Construisons l'accès au niveau, et puis pour rendre meilleurs ces jeunes-là, voilà. Mm. Si je peux me permettre de simplement dire ça, encore une fois, c'est pas dans mon nature et je compatis à ce résultat qui est mais
ouais. Éric Savignac, ça fait mal à la tête quand même, hein, quand on prend 16-0, c'est historique. On parle jamais de la Nouvelle-Calédonie dans les grands médias sportifs. Là, il y a des tweets, des choses sur Facebook de l'équipe, de Being Sport, etc., etc. Comment est-ce que ces jeunes, on va leur faire intégrer cette défaite et leur la faire digérer surtout ?
Là, en fait, on a le résultat et on n'a pas. Moi, j'ai pas pu suivre le match. On ne sait pas quel.
Il y a deux cartons rouges.
Il y a deux cartons rouges, mais ensuite, où se trouvait la défaillance. C'est vrai que 16-0, à un moment donné, je crois qu'il faut demander au chauffeur de garer le bus devant les cages, parce que prendre autant de buts, il y a vraiment une défaillance mentale, psychologique. C'est même plus... On perd tous ses moyens physiques. Donc là, comme le disait le coach, effectivement, il y a des matchs amicaux, des choses. Enfin, les matchs amicaux, c'est pas réellement toujours le surtout en foot. Hein, y a pas de matchs amicaux en rugby, mais en foot, voilà, c'est quand on est sur une compétition comme ça, élimination directe, il y a peut-être à un moment donné un manque, non pas de coaching sur le terrain, mais de préparation mentale. On sait que de plus en plus les athlètes de haut niveau font appel. Oui. J'ai un garçon qui est nageur et qui fait appel à un coach mental avant chaque compétition importante et c'est bien de se mettre en phase. Alors là, je pense qu'il y a plus une défaillance mentale. Évidemment, suite aux deux cartons. Bon, ils ont 17 ans, ils se relèveront. Alors, à contrario de ce que disait le coach, on va se souvenir que de ça. Ouais, effectivement, on va se souvenir que de ça, mais il faut l'utiliser. Mmh. Il faut l'utiliser pour les générations à venir, pour dire, je crois à un moment donné, il y a une phrase qui dit « le plus jamais ça ». Mmh. Voilà, il faut y aller avec un esprit de combattant nourri de cette défaite pour ne plus retrouver ça. Et puis après, il y a tous les dirigeants, les entraîneurs qui doivent se poser des questions et ce pourquoi. Maintenant, les gamins, voilà, il faut les encadrer, les encourager. C'est pas la fin du monde, c'est que du sport. Mmh.
Thierry Corneille, vous avez un mot à dire sur cette défaite ?
Non, j'ai mal à la tête aussi. je suis malheureux pour eux. Quoi. C'est sûr que c'est compliqué à digérer ce type de défaite. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. On est un tout petit pays avec quelques milliers seulement de licenciés. Et puis, on est quand même isolé. On a peu de confrontations. Donc, on a un niveau local quand même relativement faible par rapport à des nations de football qui vraiment sont dans des compétitions européennes, africaines, etc. Et donc, c'est sûr que ça va être compliqué quand même de sortir du match. Parce qu'on parle de 16-0, mais les deux autres matchs, quand même, on a été très, très, très largement dominés. Même si on fait un 0-0 contre le Japon. Mmh. Le Japon, je crois, tire 50 tirs cadrés dans le match. Enfin, bref, il y a vraiment une différence de niveau avec les autres équipes. Hein. Voilà, donc, on n'est pas invité à jouer les qualifications. Et je crois que c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire croire non plus aux jeunes. Quoi. Parce qu'on a l'impression, quand on avait fait le match nul, qu'on était presque champion du monde, qu'on avait passé les phases finales, qu'on allait se qualifier. Voilà, donc, on emploie souvent ce mot-là, mais qui est un petit peu galvaudé, humilité. Quoi. Mais il est un petit peu galvaudé dans de nombreux domaines.
Formule 1, non, pas du tout. Ligue 1, c'est toujours le football. On va rappeler quelques résultats de cette journée de ce week-end. Marseille, et ça va faire plaisir à Pierre Forest, qui s'est imposé 3-0 face à Brest. La belle victoire de Lens, 4-1 sur la pelouse de Monaco. C'est peut-être la surprise de cette journée. Puis ce matin, à la fin, c'est le PSG qui gagne et qui s'impose 3-2 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Je ne vais pas m'en plaindre. Bon Stéphanois que je suis. Comment vous voyez les choses, Pierre Forest, au-delà de la victoire de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, qui a été battue cette semaine en Ligue des Champions, on laisse tomber, on n'en parle pas.
On peut en parler. Ça a été un loupé monumental. Hein. Je crois que c'est là où tout le monde attendait Marseille revenir en Coupe d'Europe, en plus à domicile, quand à Atalanta, qui n'est pas certes présent. Mais non, on a un championnat. Je pense déjà qui est un peu plus normal, entre guillemets, puisque déjà l'année dernière, le PSG
avait
53 points d'avance au match aller. Donc, mais bon, après, le PSG est aussi un peu dans le dur avec des blessés, avec très peu de préparation entre les deux saisons. Mais Thierry, il est plus adepte que moi dans la préparation physique des équipes européennes pour en parler. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu une préparation digne de ce nom pour pouvoir enchaîner et le championnat et la Coupe d'Europe avec une nouvelle formule qui est... J'ai jamais rien compris dans cette nouvelle formule, mais bon, on perd, mais on continue à jouer, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de matchs. Et
oui, ça fait beaucoup de matchs à la télé, donc beaucoup de droits télé.
Et ça fait beaucoup d'argent à gagner.
Et voilà. Éric Savignac.
Non, c'est la défaite de Monaco.
Ouais, ça vous marque
Monaco,
ça
à Louis II, qui est 4-1, étonnant. Étonnant, mais après, bon, voilà, on va attendre le dénouement. Le PSG et puis derrière deux trois équipes qui se disputeront l'os à ronger, voilà
les restants
et les restants.
Thierry, pardon.
Bon, mais moi, ce que je note quand même, c'est peut-être un nivellement quand même, hein, par le haut. Maintenant, il y a 5 ou 6 équipes quand même, voilà, qui gagnent, qui perdent chez eux, à l'extérieur, etc. Et puis, au-delà également de surprise, je note quand même que l'équipe de Nantes est en position de relégable, ouais, malheureusement. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est dû au changement d'entraîneur, mais en tout cas, malheureusement, pour les Nantais, les années se suivent et se ressemblent.
Pierre ?
Oui, j'ai un ami, Gérard, il s'appelle. Hein, donc, c'est un supporter, hein, comme toi, tu l'es, de Saint-Étienne, ouais, de l'AJ Auxerre.
Ouais.
Simplement que je trouve qu'ils ne font pas de bruit, mm-hmm, mais ils essayent quand même évidemment, de rester un petit peu. Bon, ils sont dans la deuxième partie, bien sûr, mais je pense que. Voilà, c'était un petit coucou que je lui faisais, et puis, bah, allez, l'AJ.
Et Saint-Étienne, puisque vous en parlez, s'est imposé 3-2 ce week-end sur la pelouse du leader du championnat de Ligue 2, l'équipe de Troyes. On va finir, messieurs, si vous le voulez bien, avec vos coups de cœur, vos coups de griffe, ce qui vous fait envie, ce qui vous a fait vibrer pendant cette semaine, Pierre Forest.
Alors, je vais rester dans le rugby.
Ah bah tiens,
ça... je vais rester dans...
c'est bizarre ça.
oui, je vais rester dans le rugby et puis rester dans... c'est une petite revanche contre les Sudaf, hein, qui nous ont concassés. C'est la victoire des U20, des moins de 20 français, mm-hmm, contre l'Afrique du Sud, justement. 20-12, et puis dans cette équipe, je l'avais déjà signalé une fois un lundi ici, et avec deux Calédoniens, deux frères Keletauna, un qui joue en 8, Tana, hein, beaucoup de joueurs... pas beaucoup de joueurs s'appellent Tana, donc vous savez de qui il s'agit. Mmh. Et puis Luca, qui joue en 10. Et donc, si on fait le parallèle avec le Sacha, quelqu'un a dit tout à l'heure, Sacha, mmh, qui était champion du monde des U20 avec la Suisse africaine il y a quelques 2 ou 3 ans, on espère le meilleur pour évidemment Luca, qui joue en 10 et qui est licencié à Brive. Le papa est un ancien joueur de rugby, qui est aussi un adepte du basket, et qui était au Mont-d'Or. Johnston, au Mont-d'Or, mais à l'époque, c'était pas le rugby club du Mont-d'Or, c'était l'ESRM, Entente Sportive Robinson Mont-d'Or. Voilà. Mm-hmm. C'était un coup de cœur que je voulais signaler, et puis une petite revanche contre les Sudaf.
Quand même. Thierry Cornaille.
Non, un coup de cœur pour deux sports dont on n'a pas vraiment parlé. Franck Camas, qui a gagné, je crois, sa 5e transat en double, hein, que les Calédoniens connaissent bien. Et puis également, peut-être, un petit coup de cœur pour Sébastien Augier, qui lui aussi a gagné son 6e ou 7e rallye de la saison et qui va peut-être gagner son 9e championnat du monde à la fin du mois.
Ouais, alors qu'il n'a pas couru et qu'il n'est pas engagé sur tous les rallyes de la saison. Éric Savignac, on termine avec vous.
Ben, Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, Formule 1, qui hier, ben, je regardais un petit peu les qualifs, et il est sur son premier circuit, donc à Rio, et il se qualifie à la 5e place, je crois.
Ouais, il finit 8.
Il termine 8 sur la course. Donc vraiment, ce jeune est prometteur et risque très certainement de changer d'écurie dans les années à venir.
On le lui souhaite. Tiens, on va dire un petit mot des Français pour ce Grand Prix du Brésil. C'était ce matin. Hadjar qui finit 8, Pierre Gasly sur Alpine qui finit 10 et Esteban Ocon un peu plus loin sur sa As qui termine à la 12e place. Le prochain Grand Prix, ce sera dans 15 jours et ce sera à Las Vegas, me semble-t-il. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle semaine sportive. Non, vous ne voulez plus venir, Pierre ? Ah oui, vous partez ?
Je m'en vais.
Vous partez en vacances ?
Oui, mais...
Bah, bonne vacances, Pierre, alors.
Je crois que c'est Galtier qui l'a appelé.
Ben voilà, ça continuera de chambrer quand même. Allez, bonne semaine.